Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Aujourd'hui, on se concentre sur le dernier grand chelem de la saison, le US Open. Que feront les Canadiens? À quoi rassembleront les demi-finales du côté féminin et du côté masculin? Toutes des questions auxquelles on tente de répondre. Le dossier de la vaccination fait aussi jaser à New York. On en discute également. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts pour le US Open?
Ok, oui.
C'est parti.
Salut, salut les gars. Très content de vous retrouver une fois de plus pour cet épisode de Sur la ligne, le podcast, émission de radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. Je veux pas me taper dans le dos sans raison, mais je vais le faire. Honnêtement, je regardais l'intro, puis ça fait le travail. Ça fait le travail, une fois de plus.
Ah, c'est du bonbon, là. C'est du bonbon.
Pas gênant. Honnêtement, on a vu pire. Vraiment, je l'aime bien notre intro. Parlant d'intro, salut Nicolas Richard, comment te portes-tu maintenant qu'on travaille plus que jamais ensemble puisqu'on a le podcast, tu fais de la radio aussi, et maintenant tu vas couvrir la LHJMQ dans tes nouvelles fonctions à l'Hebdo Rive-Nord, si je ne me trompe pas.
Ça n'arrête jamais, là. On a connu un été phénoménal. Oui, le tennis, il y avait les Jeux Olympiques, là c'est le US Open, l'automne qui arrive tranquillement, retour du hockey, de la LGMQ, de la NFL. Pour tout amateur de sport, cette période-ci, là, où septembre, c'est névralgique, c'est extraordinaire.
Suis-tu les parents un peu, Nico?
Les Paralympiques, assurément. Je me lève même à 4h20 pour regarder certaines compétitions de natation. Ça vaut la peine, hein, nos espoirs canadiens qui sont encore une fois cette année fantastiques.
Qui est ton coup de cœur, athlète paralympique?
Ben, j'ai un fort attachement pour Aurélie Rivard et Nicolas Guiturbide, deux nageurs du PEPS de l'Université Laval que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, qui sont deux athlètes en or. Aurélie, qui est l'une des plus grandes paranageuses de l'histoire. Nicolas Guiturbide, qui est un peu plus dans l'ombre, mais qui a remporté une médaille d'argent, notamment aux 100 mètres. C'est deux athlètes formidables, mais je pense d'ores et déjà là, que chaque athlète paralympique qui se rend au jeu, avec le peu de financement qu'ils ont, le peu de représentation qu'ils ont, ce sont déjà des héros. Donc, à tous ces athlètes, je leur lève mon chapeau.
Nico, toi, tu es mon héros pour continuer de suivre les Jeux olympiques et te lever aussitôt. Tu es un passionné, mon gars, puis je suis content de travailler avec un gars comme toi. L'autre personne avec laquelle je suis content de travailler régulièrement, c'est Hugues Léger. Il y a du tennis derrière lui à l'hôtel Montville, parce qu'au moment où on enregistre, Félix est en action, alors on n'aura pas le score final, mais on va en parler un peu. Comment vas-tu, Hugues?
Ça va super bien, super bien. L'été qui se prolonge, le US Open, c'est toujours une belle transition vers l'automne. Les night sessions sous les projecteurs au Arthur Ashe Stadium, l'électricité dans l'air avec la foule cette année. Donc, c'est une belle période de deux semaines qui s'amorce.
Mon tournoi préféré parce qu'il fit avec mon horaire de vie normal, c'est-à-dire théoriquement les matchs commencent en début d'après-midi et finissent très tard le soir. Alors merci US Open de t'accommoder à ma vie. C'est beaucoup plus facile à suivre que Wimbledon et Roland Garros et encore plus facile à suivre que l'Australian Open. Ben quoi que l'Australian, dépendant de l'horaire des matchs là, c'est pas si mal, mais la finale à 4h du matin des fois est tough.
Ouais, puis c'est aussi le point culminant de la US Open Series dont l'Omnium Banque Nationale fait partie. Donc, c'est notre grand chelem nord-américain à nous aussi. Donc, c'est bien le fun.
Et là, ce qui est bizarre, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que d'habitude, bon, le US Open, c'est un peu comme, j'oserais pas dire la fin de la saison, mais pour l'amateur de tennis moyen, c'est pas mal là en général que ça s'arrête. Après, il y a la tournée en Asie puis les finales de l'ATP. Mais là, cette année, il y aura Indian Wells qui va suivre au mois d'octobre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste un autre gros tournoi, ce qui n'est pas le cas généralement avant Paris et les finales de l'ATP. Là. Alors, il y a un autre gros tournoi en terre nord-américaine. Alors, la saison est loin d'être terminée. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va en parler beaucoup du US Open. Messieurs, c'est un épisode presque complet sur le US Open. Et allons-y, commentaire général, messieurs. Hugues, tu t'attends à quoi de ce US Open qui est commencé officiellement?
Ben, premièrement, on peut ne pas souligner en partant le fait que Federer, Nadal et Serena sont pas là. On va en parler un petit peu plus tard, mais on voit de facto, après la pandémie, en fait, qui se poursuit encore, mais on est encore dedans encore, que le changement de garde, il est en place maintenant. Chez les hommes, c'est évident, on voit le top 4 au niveau des favoris. C'est Djokovic qui y va pour son grand chelem et pour son premier grand chelem calendrier. Et ça serait le premier depuis Rod Laver à la fin des années 60, donc c'est un moment important pour lui. Mais on voit que la nouvelle génération est en place, que Federer et Nadal, on les verra peut-être plus à ce niveau-là. Et Serena aussi, à 40 ans, aura peut-être manqué sa dernière chance d'avoir un autre grand chelem à son actif. Donc c'est ça qui est mon point d'entrée sur le US Open cette année. C'est la nouvelle garde qui est en place, du côté des hommes en tout cas.
Ben, c'est très légitime comme remarque. Et Nico, je vais te lancer là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'on en parle trop un peu de « Ah, c'est un US Open sans Federer, sans Nadal? » Pour moi, c'est comme... Bon, ça fait déjà un bout qu'on le voit venir, mais ça semble quand même être très récurrent dans les médias. Et ben franchement, ça doit être fatigant pour les joueurs.
Ah oui, oui.
Ben, c'est parce qu'en bout de ligne... On veut que les meilleurs soient là. Pour notre plaisir personnel, on peut pas se cacher que de voir performer Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, pour tout amateur de tennis, c'est à chaque fois un privilège. Mais là, force est d'admettre que la tendance, comme Hugues l'a dit, est en train de changer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces trois-là réunis dans un même tournoi. On s'y est presque habitué, j'ai envie de dire, même si c'est un peu triste. Mais la nouvelle garde est arrivée. Le nouveau tennis est en marche. Les jeunes poussent, les jeunes sont là. Ce sera de plus en plus récurrent. Oui, est-ce que j'ai de la peine? Est-ce que je suis triste? Assurément. Est-ce que je suis surpris? Non. Et est-ce que ça va influencer le côté fantastique de ce tournoi-là, qui est mythique, qui est le US Open? Je ne penserai pas. Parce que oui, Federer, parce que oui, Nadal, parce que oui, Williams ne seront pas là. Mais vous le savez comme moi, il y a tellement d'autres joueurs qui méritent de remporter des grands chelems. On y reviendra, mais assurément, ce sera un spectacle extraordinaire de toute façon.
Ouais, ben tu sais, l'année passée aussi, ça a été une finale sans Federer, sans Djokovic, puis je pense que personne s'en est plaint là de ce point de vue-là. Je pense qu'on était tous contents de voir Dominic Thiem, tous contents, façon de parler là, remporter un grand titre. Et je pense que, bon, cette année, c'est plus vrai que jamais que la nouvelle génération, elle est arrivée, mais elle n'est pas juste arrivée, elle est installée, là. Ah ouais. Les Medvedev, les
Zverev.
Exact. Tu sais, il y a beaucoup de champions qui sont en droit de... et qui sont non seulement en droit d'aspirer à un titre, mais qui sont tout à fait légitimes comme potentiel champion de Grand Chelem. Je pense que la nouvelle ère, c'est une belle ère, celle qui s'en vient, avec celle qu'on verra dominée par Medvedev, Zverev, on les a nommés. Peut-être même Félix et Chapeau, qui sait, s'il faut qu'ils explosent, explosent, façon de parler, comme si Chapovalov était dans le top 10 et il l'avait pas déjà explosé, il est quand même 10e joueur mondial, là. mais dans le top 10, enfin, moi, je suis d'accord avec vous, les gars, je m'attends à comme un excellent tournoi cette année. Tournoi marqué, oui, par une absence de Federer, Nadal et Serena du côté des femmes, mais pour moi, c'est pas une grosse histoire, comme en tout cas, on semble en faire une histoire aux États-Unis. Peut-être que c'est moi qui sous-estime les choses. Avant qu'on passe à une autre chose, parlant de la nouvelle génération, juste faire un petit message pour un invité qu'on a eu deux fois au podcast, un de nos invités les plus prestigieux, Ben Rutherberg, qui a sorti sa deuxième partie, les gars. Je sais pas si vous avez lu ça, puis on n'en parlera pas trop aujourd'hui, là, c'est pas le but de l'émission, mais la deuxième partie sur l'histoire de Zverev, qui est une histoire de violence conjugale là, ou d'harcèlement à tout le moins, là, mais en tout cas, il y a des passages de violence conjugale là-dedans, potentiels. Je tiens à le préciser. Je pense que ça vaut la peine d'aller lire cette deuxième partie-là de l'article de Ben. C'est tout un travail de recherche et ça soulève beaucoup de questions sur comment approcher ce thème-là d'un point de vue de l'ATP et de la WTA. Enfin, Parce que bon, on sait que l'ATP et la WTA, ce sont pas des ligues là, comme la LNH et tout. Alors, en tout cas, j'invite les gens à les lire. C'est mon petit passage sur l'article de Ben qui est venu nous jaser deux fois à l'épisode. On a parlé lors de la première entrevue, justement, de sa première partie. C'était très intéressant si les gens veulent aller écouter ça. C'est sur nos plateformes, toutes nos plateformes de diffusion, les entrevues intégrales. Voilà. Et d'ailleurs, Zverev est sans aucun doute un des favoris pour remporter le US Open. Ça, c'est sûr. Messieurs, d'accord, il n'y a pas de Federer, d'accord, il n'y a pas de Nadal ou de Serena, mais chez les Canadiens, il y a quand même une qui est là, qui commence à revenir de plus en plus dans l'actualité du tennis, c'est Rebecca Marino, qui a réussi à se qualifier. Nico, Hugues, tu as vu ça comment?
Ben, déjà, avec un classement dans les 300 au monde, qui se qualifie pour un tableau de Grand Chelem qui comprend 128 joueuses, c'est un accomplissement en soi. C'est cool aussi pour elle parce qu'elle va faire une jolie somme d'argent juste en étant au premier tour. Je pense qu'elle va sortir environ 75 000 US en jouant au premier tour, en souhaitant qu'elle puisse gagner son match contre Vitolina, mais c'est une grosse commande pour elle aujourd'hui. Mais écoute, pour elle, c'est que du bonheur, là, le fait de jouer en Grand Chelem après un bel été, ça belle performance à Montréal. C'est cette belle histoire de retour pour une deuxième phase de sa carrière qui se concrétise au US Open. Ça fait vraiment, vraiment plaisir encore une fois pour Rebecca Marino. Quelle belle réussite.
Ah, tu sais, elle le disait à Montréal, je joue plus haut que mon classement l'indique. Et ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Et je suis en train de faire la recherche là, pendant que tu parlais. C'est effectivement 75 000 $ pour un premier tour. Et s'il fallait qu'elle passe au deuxième tour, c'est 115 000 $. Alors, pour c'est significatif comme montant et ça se fait dans l'effort d'égaler un peu la distribution des bourses. Là. C'est pour ça que c'est si important, ces premiers tours de Grand Chelem-là. Ça fait vraiment une grosse différence. Voilà. Nico, tu vois ça comment, toi, cette qualification-là de Rebecca Marino?
Ben, très heureux et j'ai envie de voir peut-être une étape plus loin. C'est-à-dire que oui, elle affrontera Svitolina, qui est très coriace comme adversaire, quand même la cinquième favorite. Mais je suis quand même content qu'elle puisse affronter Svitolina. Pourquoi? Parce que je pense que dans le top 10, c'est peut-être la plus prenable. On le sait à quel point ses performances sont en dents de scie. Donc, je me dis, tant qu'à affronter une joueuse top 10, tant qu'à avoir un mauvais tirage, où s'y est tombé sur Svitolina? Et là où ça peut être intéressant, c'est si elle la bat. Parce que si elle bat Svitolina, c'est un tremplin extraordinaire pour la suite des choses. Donc oui, c'est dommage qu'elle n'ait pas un tirage avantageux, mais en même temps, puisque c'est Svitolina, je suis un peu content malgré tout.
Ouais, ce sera pas facile là, pour Rebecca Marino. Svitolina, comme tu le disais, c'est une des meilleures joueuses au monde. Elle est sur une bonne séquence parce que si je me trompe pas là, elle a gagné Chicago la semaine passée. Oui. Alors quand une fille qui arrive avec beaucoup de rythme comme ça, c'est dangereux. Elle connaît des bons moments. Elle a bien fait aux Jeux Olympiques également. Alors Svitolina, faut pas. Ça va être difficile pour Rebecca Marino. Surtout que Svitolina, c'est une joueuse qui compose bien avec la puissance là, comme une fille pour comme Rebecca Marino est puissante. Là, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mm-hmm. Mais déjà, c'est un exploit en soi qu'elle soit là. Et puis, je pense qu'on va prendre la meilleure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
Oui, ben effectivement. Je suis d'accord avec votre analyse que Svitolina est peut-être la joueuse la plus prenable dans le top 10 en ce moment. Et si elle gagne, ben le tableau s'ouvre pour elle. On pourrait l'avoir pendant quelques matchs encore parce qu'elle peut rivaliser avec n'importe quelle fille. Elle peut taper avec n'importe qui, avec son gros service, son excellent coup droit. Et là, elle a une confiance et je suis sûr qu'elle a un relâchement. Elle doit pas être. Bon, il y a sûrement une certaine nervosité, mais elle doit être relâchée aussi parce que c'est une réussite en soi d'être dans le tableau principal. Donc, elle doit être dans de très, très bonnes dispositions pour jouer son match aujourd'hui. Et qui sait pour la suite, elle peut aller chercher une coupe de tour de plus.
Ben, en fait, s'il fallait qu'elle passe Svitolina, effectivement, comme tu dis, le tableau s'ouvre pas mal. Ce serait possiblement Simona Halep qui a gagné ce matin. Oui. Là. D'ailleurs, elle avait tout un match-up en
contre Camilla Giorgi.
Oui. Contre Camilla Giorgi, et puis elle a passé assez facilement. Ce serait Bogdan au deuxième tour, Kazatkina, prenable pour peut-être, bon, remarquer, Vondrousova potentiellement dans cette partie de tableau-là. Mais mettons que s'il fallait qu'elle passe le premier tour, disons que c'est envisageable qu'elle passe un deuxième et peut-être même un troisième tour. Et là, une ronde des 16, ce serait plus qu'espéré. Mais bon, Svitolina, déjà en partant, c'est un bon défi. Si on a parlé de Rebecca, restons du côté des femmes. Nico, tu t'attends à quoi de Bianca Andreescu?
Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est vraiment l'analyse que j'en fais. Parce que je n'ai pas envie, encore une fois, malheureusement, d'être déçu. Donc, je mets mes attentes assez basses pour Bianca. On le sait qu'elle a le talent. Là. C'est pas débattable. On l'a dit la semaine dernière, est-ce qu'elle devrait se retirer? Est-ce qu'elle devrait prendre sur elle-même? J'ai hâte de voir comment son corps va répondre, comment ses aptitudes physiques vont être exploitées, ouais. Parce que les joueuses le savent de plus en plus qu'elle est fragile. Donc, je ne veux pas me faire d'attente par peur d'être déçu. Mais bon Dieu, que ce serait plaisant de voir une Bianca aller loin. Ce serait plaisant pour nous, pour le tennis canadien, mais pour elle, elle a besoin d'engranger des points, elle a besoin de gagner des matchs. Et si elle pouvait se rendre le plus loin possible, gagner au moins deux matchs, là, je pense que c'est le strict minimum pour elle. Ce serait du gâteau, ce serait du bonbon. Mais je préfère ne pas me faire d'attente.
Oui.
Hugues?
Ben, d'après ce qu'on lit depuis quelques jours, elle est dans de très bonnes dispositions. Elle n'a pas de conséquences de sa blessure aux orteils à Montréal.
Ouais, ça moi, donc, je vais le croire quand je vais le voir.
Oui, ben, moi aussi, c'est ça mon point. Là, c'est là où je m'en vais. Encore une fois, pour reprendre le cliché, moi, je vais la regarder match après match. On verra dans le premier match comment elle se sent, comment ça va. Je peux pas faire de prédiction sur la performance de Bianca pour le US Open cette année. Si elle se rend en deuxième semaine, ça serait pour moi une surprise, mais allons-y match après match et on verra si elle est vraiment dans un bon état pour performer au plus haut niveau dans un grand chelem. Mais j'ai pas confiance aujourd'hui. J'ai hâte de la voir pour avoir un peu plus de confiance.
Contre Golubic, bon, c'est une fille qui se sont jamais affrontées là, chez les pros. C'est le 45e mondial, Golubic, on verra qu'est-ce que ça va donner. S'il fallait qu'elle passe le premier tour, ce serait Lauren Davis qui est très prenable aussi. Par contre, après, messieurs, si on regarde rapidement, qu'est-ce que ça pourrait être comme tableau pour...
C'est dangereux, là.
Ben, honnêtement, je veux pas te dire que c'est mission impossible, mais ce sont tous des championnes de Grand Chelem, ouais. Ou des joueuses...
coriaces.
Ben, Coria, celle qui n'est pas championne de Grand Chelem, c'est Sabalenka, Sabalenka qui est deuxième mondiale, qu'elle affrontera en finale. Et sinon, c'est Ostapenko, possiblement. Ouais. Vitova ou Sakkari, possiblement. Après ça, c'est Pliskova, qui est une ancienne numéro un mondiale. Barty, c'est la meilleure joueuse cette année. Et ce serait Sabalenka en finale. Je veux dire, s'il fallait qu'elle remporte ce tournoi-là, ce serait absolument phénoménal, parce qu'on va se dire, elle n'a pas un tableau facile, Bianca Andreescu. Mais... moi, on m'a demandé à la radio cette semaine à quoi je m'attendais et j'ai eu la même réponse que toi, Nico, c'est-à-dire je m'attends à rien. Non, exact. Et j'ai aussi hâte de voir qu'est-ce qui va arriver une fois que le classement, parce qu'elle est une des joueuses qui a profité le plus des classements protégés, là, ça c'est certain. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver quand elle va devoir jouer des premiers tours un peu plus complexes. Enfin, première étape, Golubic, on verra qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'elle peut légitimement aspirer à un troisième tour, même si elle est à 70%. Elle dit qu'elle est en santé. Il n'y a jamais un athlète qui va dire qu'il n'est pas en santé quand il compétitionne. Alors, on verra. Comme je disais à Hugues tantôt, je vais le voir quand je vais le croire. Dans le cas de Leila Annie Fernandez, messieurs, on s'attend à quoi?
Ben écoute, je l'ai mis jusqu'au troisième tour dans mon tableau du US Open. On peut gagner 1 million en passant. Ceux qui ne l'ont pas fait, allez faire un tour sur le site du US Open. C'est un fantasy tennis cette année pour les prédictions sur le tableau. Et on sait au moment où on enregistre cette émission-là qu'elle a gagné son premier tour. Donc c'est bien parti pour Leila. Une belle victoire en 2-7. Et je pense qu'elle peut faire une coupe de tour encore, Leila. Donc belle victoire. Elle va prendre confiance. Elle va sûrement être plus relaxe même qu'à Montréal où on a senti qu'elle était un petit peu tendue durant son premier match. Donc, c'est bien parti pour Leila.
Nico?
Ben, on parlait de tableau difficile. Celui de Leila n'est pas évident non plus. Oui, belle victoire ce matin. Victoire quand même à l'arraché, notamment au premier set où ça n'a pas été simple du tout. Mais encore une fois, on a vu à quel point Leila, c'est une fille de caractère. Elle a pu voir une fois dans ce premier match-là. Après ça, possiblement Poutine-Seva. OK, 31e, ça va, mais après ça, possiblement Naomi Osaka. Ensuite, possiblement Coco Gauff ou Angélique Kerber. Et là, on se projette, mais quand même, ça demeure un tableau extrêmement complexe. Oui, tantôt, on parlait de l'absence de Williams, mais il y a beaucoup de bonnes joueuses dans ce tournoi-là. Puis c'est un grand chelem, c'est pas pour rien. Chaque match sera difficile. Leila peut nous offrir de superbes performances. On le sait, elle peut nous sortir un lapin de son chapeau à peu près à tout moment. Je pense que c'est de l'expérience. Encore une fois, ce tournoi-là, on le répétera jamais assez, mais elle est tellement, tellement, mais tellement jeune. Il faut prendre de l'expérience, il faut prendre du millage. Tout simplement, si elle gagne en plus, tant mieux. Mais j'aime mieux ne pas me faire d'attente, encore une fois, pour Leila. Si, malgré tout, j'espère qu'elle remporte, et j'aurais peut-être plus d'espoir en elle que Bianca, pour être tout à fait honnête avec vous, là, de la façon dont elle a joué ce matin, je mettrais peut-être plus de patte d'ours sur Leila que sur Bianca. Ça demeure, je me répète, mais elle est jeune, elle prend de l'expérience, elle a encore beaucoup de millage à prendre, mais c'est encourageant.
Ah, c'est sûr que c'est encourageant, mais comme tu dis, elle n'a pas un tableau nécessairement facile. Là, si on regarde à peu près ce que ça pourrait donner, tu le mentionnais, Putintseva au deuxième tour, prenable, mais après ça, ça se complique. Ce serait potentiellement Osaka, potentiellement Kerber ou Gauff, potentiellement après ça, Svitolina, Alep, elle est dans la partie de tableau de Sabalenka, donc elle pourra affronter Sabalenka d'autres championnes de Grand Chelem potentielles en demi-finale. Alors, je pense qu'un 2-3e tour, c'est légitimement envisageable. Hugues, est-ce que tu serais satisfait de l'avoir perdre contre Osaka au 3e tour?
Oui, écoute, c'est un match que j'aimerais voir premièrement, mais ça serait une belle réussite pour Leila. Et je vous dis, je pense qu'elle peut peut-être s'y rendre. Et pour moi aussi, ça a été un choix plus avec plus de confiance, disons, de voir avancer Leila dans le tableau que Bianca. Quand j'ai fait mes prédictions, donc j'ai fait avancer Leila une coupe de tour et Bianca, je pense que ça peut s'arrêter assez vite malheureusement. Donc à voir pour Leila, mais je pense que c'est bien parti. Puis elle peut nous surprendre et passer une coupe de tour. Oui.
Mais tu sais, c'est pour ça aussi, là, tu parlais, Alex, de Putintseva, comme quoi c'est prenable. J'ai aussi mis Leila assez loin, en fait, contre Osaka. Ouais. Je l'ai fait perdre par logique contre Osaka. Mais attention, parce qu'Osaka, on le sait, elle est fragile. Elle n'a pas joué beaucoup de tennis. Et si Leila a le vent dans les voiles, et si Leila peut trouver la faille chez Osaka, et si Naomi Osaka sous-estime Leila, ça pourrait probablement être son erreur la plus coûtante, la plus pénalisante. Donc, attention, oui, évidemment, Osaka, l'une des meilleures joueuses de sa génération, mais contre une Leila en feu qui n'a rien à perdre, je ne mettrais pas tout ce que j'ai sur une victoire d'Osaka.
Justement, parlons-en, là. Naomi Osaka, on doit s'attendre à quoi, selon vous? Je trouve que elle est difficile à prévoir dans ce US Open-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. À quoi on s'attend de Naomi Osaka, qui d'ailleurs est revenue sur sa période de où elle ne voulait plus parler aux médias en disant que c'était une erreur. Là, honnêtement, qu'elle revienne là-dessus, ça m'a surpris doublement, là, qu'elle fasse marche arrière. Je ne sais pas trop si c'est une question de relations publiques. Là. Enfin, moi, je me disais, tant qu'à faire... tant qu'à créer une vague comme ça, surfe dessus jusqu'au bout. Là. Mais enfin, ça, c'est un autre détail. C'est un autre débat. Hugues, tu t'attends à quoi de Naomi Osaka?
Le roman Savon se poursuit un peu. Là. Je trouve ça encore dommage qu'on revienne sur cette question-là. Moi aussi, je pense qu'elle a fait une erreur à Roland-Garros. On en a beaucoup parlé, mais ça me surprend qu'elle revienne là-dessus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'elle a réalisé justement les responsabilités qui viennent avec son rôle de deuxième mondial? Je le sais pas s'il y a un changement à cet effet-là. Elle descend troisième d'ailleurs maintenant. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés à voir quel parcours elle peut nous donner au US Open cette année. C'est un peu comme Bianca, point d'interrogation pour Naomi Osaka. Il y a beaucoup de distractions autour de son jeu. Je pense qu'elle a besoin de se recentrer sur le tennis ou de faire des choix si sa vie, c'est autre chose. Puis avec tout le respect qu'on lui doit, c'est OK. Mais tu peux pas être on and off comme ça. Donc, j'ai pas encore une fois de parcours tracé très loin pour Osaka cette année. Je ne m'attends pas à un grand US Open de sa part.
Je vais revenir à ta prédiction par rapport à ça et ça nous donnera peut-être une petite indication. Nico, à quoi on s'attend de Naomi Osaka? Ça va être mieux si tu unmute ton micro, Nico.
Pardon. Malheureusement, je pense qu'on a plus de chances d'être déçu que d'être surpris. C'est le constat que j'en fais parce que tu l'as dit, elle est de plus en plus difficile à cerner. c'est de plus en plus difficile de savoir à quoi s'attendre. Oui, elle est top 5 mondiale. Oui, on sait qu'elle a le calibre pour jouer à ce niveau-là. Mais présentement, depuis quelques semaines, quelques mois, elle n'est pas la joueuse que le classement indique. Malheureusement, c'est malheureux parce qu'on aimerait ça voir une Osaka en santé qui performe. Mais je m'attends malheureusement à être plus déçu que surpris d'Osaka, compte tenu d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueuses qui poussent en ce moment, qui connaissent de très, très bons moments dans le top 10. Il y a beaucoup de joueuses qui se sont qui se sont vues renaître pendant cette série US Open. Ce sera difficile pour Osaka, très difficile.
Mm-hmm. Parlons-en. Prédiction, messieurs, je vous demande vos demi-finales. Évidemment, là, on ne fera pas le tableau complet. Nico, tu t'es choix pas loin du côté des femmes.
Absolument. Chez les dames, donc, demi-finale très, très prévisible. Je pense que ce sera ça le mot-clé du tournoi. Malheureusement, pas malheureusement, mais on aime les surprises, on aime les histoires Cendrillon, mais je pense que ce sera un tableau très prévisible. Donc, en demi-finale, j'ai Ashleigh Barty, la meilleure joueuse au monde, contre Sakkari. Vous le savez, elle s'est comme révélée cette année. On savait qu'elle était bonne, mais on dirait que depuis quelques mois, elle a pris du galon tellement en forme, on ne le répétera jamais assez. Je pense qu'elle a été un peu déçue de sa performance à Montréal parce qu'on la voyait très, très loin, plus la semaine avancée. Donc, je vois Sakkari en demi-finale contre Ashleigh Barty. Et dans le bas du tableau, je vois une demi-finale Coco Gauff. On l'espère encore une fois, on la place très, très loin à chaque tournoi majeur. Donc, Coco Gauff contre Sabalenka, qui aussi connaît de bons moments. Et je pense qu'elle est due, elle, pour remporter un titre d'importance.
Ça se pourrait très bien. Hugues, à quoi ressemblent tes demi-finales?
Moi, de mon côté aussi, ça va être Barty dans le haut du tableau. Et je la verrai probablement en demi. Je l'ai mis contre Pliskova. Donc, je suis le classement. Vous savez, les gars, que je suis assez fidèle au classement, généralement du côté des hommes, un peu moins du côté des femmes. Mais pour cette partie de tableau-là, je pense que ça va être Barty Pliskova. Et dans le bas du tableau, je retrouve ma prédiction tout de suite. J'ai mis Sabalenka, qui connaît une très, 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 très bonne été, contre Coco Gauff. Et c'est une demi-finale que encore une fois, on parle souvent de demi-finale de cœur. C'en est une que j'aimerais voir. J'ai poussé Coco Gauff dans mes prédictions tout l'été. Elle n'a pas réalisé ce que je souhaitais jusqu'à maintenant, mais je pense que dans son grand chelem à la maison, Coco Gauff va se rendre en demi-finale contre Sabalenka.
C'est des prédictions qui sont tout à fait légitimes, messieurs. Moi, j'ai amené Naomi Osaka en demi-finale contre Sabalenka. Parce que je sais pas, je pense que il est temps pour une grande performance de Osaka. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, je l'avais pas là. Je la faisais perdre contre Coco Gauff, moi aussi. Et puis, c'est con, mais j'ai écouté le documentaire sur Naomi Osaka finalement là, pendant mes vacances. Puis là, j'ai vu la dernière défaite contre Coco Gauff. Puis là, elle disait, j'étais pas content. Tu sais, je l'aime beaucoup, Coco Gauff, mais j'étais pas contente de perdre contre elle. Fait que je me suis dit, non. Si. Et là, j'ai changé mon choix par après et je l'ai amené contre Sabalenka et je l'ai même amené en finale par la suite. Et tout au haut du tableau, je suis allé avec Barty Pliskova parce que, bon, Pliskova est quand même sur une bonne séquence. Elle a bien fait dans les derniers temps. Son gros service peut l'aider, mais je pense que Barty va l'emporter. Et pour moi, j'aurai une finale Barty-Osaka qui est pas très surprenant. Nico, ta finale, toi, ça ressemble à quoi?
Ma finale, ben rien de surprenant. J'ai une finale entre la numéro 1 et la numéro 2, c'est-à-dire Ashleigh Barty et Sabalenka, une finale que, oui, peut-être un peu prévisible, peut-être que c'est un peu plate là, pour les auditeurs qui nous écoutent, mais ce sera quand même un match exceptionnel. Si on a droit à ce match-là en demi-finale du dernier, en fait, en finale du dernier tournoi Grand Chelem de la saison, on aura droit à tout un rendez-vous entre deux cogneuses, deux joueurs qui ont le vent dans les voiles, deux joueuses qui ont prouvé à tout le monde qu'elles avaient leur place en tant que 1 et 2 cette semaine. Je l'ai écrit parce que je pense que ça va arriver, mais je le souhaite beaucoup aussi.
Hugues, ta finale?
Même chose. Barty Sabalenka, je la souhaite. J'ai vraiment envie de voir ces deux joueuses-là s'affronter en finale du US Open. Numéro 1 contre numéro 2. Les deux ont l'air en forme en ce moment. C'est un choix logique, mais c'est un choix qui devrait faire une finale extrêmement excitante si elle se confirme.
Effectivement, Sabalenka, c'est probablement une future numéro 1 mondiale, peut-être même championne de Grand Chelem, peut-être même qu'elle remportera ce US Open. Messieurs, ça me semble très logique, beaucoup plus logique que les prédictions de Nico à Wimbledon. Je tiens à le rappeler une fois de plus. Messieurs, chez les hommes, passons au côté des prédictions. À quoi doit-on s'attendre d'abord et avant tout? Donc, partons de Shapovalov, là, puisque Félix est en action au moment d'enregistrer. Est-ce que Shapovalov, pourra mettre fin à sa séquence difficile?
C'est difficile de dire s'il pourra mettre fin à sa séquence difficile parce qu'on ne reconnaît plus Shapovalov. On l'a dit la semaine dernière, là, ce qui fait la grande force de Chapeau, c'est son caractère, c'est ce désir de gagner, c'est sa hargne. Il l'a comme pas perdu, mais on dirait qu'il l'a égaré au cours des dernières semaines. Et c'est dur dans un grand chelem d'arriver pas confiant, d'arriver pas en pleine possession de ses moyens. Je l'ai mis assez loin dans mon tableau. Là. Je pense que je l'ai mis jusqu'en quart de finale, je pense. Mais enfin, peut-être un souhait plus qu'une réalité. Il doit rebondir. C'est maintenant ou jamais pour lui. Il doit montrer à tout le monde que c'était seulement une erreur de parcours. Il doit montrer à tout le monde qu'il a encore ce qu'il faut pour gagner et être top 10 mondial. Mais bon Dieu, que ça ferait du bien de voir Chapeau de retour sous les projecteurs dans un quart de finale de Grand Chelem. Sinon, je vais commencer à m'inquiéter sévèrement pour Shapovalov.
Hugues?
Même chose de mon côté. Je suis très inquiet de son début de tournoi contre Delbonis. C'est pas un joueur facile quand même. Donc, s'il passe... Écoute, dans le contexte actuel, je m'attends et je souhaite que Denis nous surprenne, mais ses performances depuis Wimbledon, le fait qu'il semble vraiment se chercher en ce moment, il doit pas aborder le US Open dans les meilleures conditions cette semaine. Donc, pour ces raisons-là, je le mets pas plus loin que le troisième tour. Et si s'il va plus loin, ça serait une belle surprise. Je le souhaite, évidemment. Mais ses résultats récents me font douter de son potentiel pour le US Open de cette année, malheureusement.
Toi, tu penses qu'enfin, Khachanov va être... potentiellement, Khachanov au troisième tour serait un trop gros défi pour lui dans le contexte.
Oui. Pour moi, c'est là que ça va s'arrêter, si ce n'est pas avant. Exact.
Parce que moi, je dis ça parce que je trouve qu'il a un tableau quand même très raisonnable avant les quarts de finale où là, ça va être compliqué. Là. Mais Delbonis, ça devrait être prenable au premier tour. Tommy Paul, potentiellement, au deuxième tour. Là, ou enfin, sinon, ça pourrait être Baena, mais c'est théoriquement, ça devrait être Tommy Paul. Oui. Et ça, c'est très prenable aussi. Je pense que Khachanov aussi est prenable. Bon, Félix l'a battu il n'y a pas si longtemps. Et même au quatrième tour, ça pourrait être, peut-être Korda, Opelka, Busta, peut-être là, un de ces joueurs-là. Mais son tableau jusqu'au quatrième tour où il affronterait potentiellement Zverev me semble quand même pas si compliqué que ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Nico.
Ah non, tu l'as dit, puis tu sais, c'est juste une question de confiance, c'est de retrouver la touche, parce que lorsque Chapeau voit son tableau, il se dit « Ok, parfait, je sais qu'en temps normal, je peux battre tous ces gars-là. Je sais qu'en temps normal, j'ai ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de, peut-être pas jusqu'au bout du tableau, mais au moins jusqu'en quart de finale, en deuxième semaine, disons. » Mais là, avec la façon dont il joue, je ne sais pas à quel point lui, il est affecté par ça, je ne sais pas à quel point lui, il doute, je ne sais pas à quel point il se remet en question. Mais oui, tu l'as dit, il y a un tableau prenable, un tableau ouvert, un tableau facile. Maintenant, il faut que les actions suivent les babines. Chapeau sur Instagram mettait des vidéos à l'entraînement. Il disait à quel point il était content d'être au US Open. Il disait que pour lui, ça allait être un nouveau départ. Il disait qu'il va laisser les dernières semaines derrière lui. Maintenant, c'est de voir s'il peut livrer la marchandise parce que oui, c'est un tableau dont il peut profiter et tirer avantage.
Sa pire performance au US Open, c'est un troisième tour. Alors, c'est un tournoi dans lequel il performe de façon générale très bien. À sa dernière présence, en 2020, il avait fait des quarts de finale. Je l'ai amené en quart de finale jusque contre Zverev. Je pense que jusque-là, c'est relativement prenable. Même s'il a une fiche perdante potentiellement au quatrième tour contre Busta, là, il est 1-4. Mais je pense que c'est quand même prenable. Toi, Hugues, tu l'as où, ce Shapovalov?
Je te l'ai dit, moi, je pense qu'il ne se rend pas plus loin que le troisième tour.
Ah, oui, c'est vrai.
S'il passe, là, ça va s'arrêter à Khachanov. Écoute, j'espère être surpris, je le répète. Tout dépend du travail qui a été fait avec son coach et son équipe depuis deux semaines. Est-ce que mentalement, il arrive dans de bonnes dispositions? Il faut qu'il commence le tournoi fort. On a dit qu'il y avait de la difficulté avec ses entames de match depuis Wimbledon. Et les procès sont compliqués. On va voir si la préparation porte fruit, mais j'ai pas de trop d'attente pour Dennis cette année, malheureusement.
Mais les gars, ce qu'il faut souligner, puis je pense, et peut-être que je me trompe, là, mais un des grands avantages, je pense, pour Dennis à cette édition du US Open, ce sont les gradins qui seront pleins. Ce seront le stade qui sera plein à craquer. Dennis, au cours des derniers mois, n'a pas eu beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, parce que lui, c'est un joueur, vous le savez, qui se nourrit de la foule, qui aime l'énergie des stades remplis. Et le stade Arthur Ashe, notamment, c'est un stade bouillant, c'est un stade excitant, c'est un stade électrisant. Donc, si Chapeau peut mettre la foule de son côté, peut mettre les gradins de son bord, ça peut être dangereux parce que vraiment, je pense qu'il attend ça. Et s'il peut avoir un bon momentum, jouer de bons matchs et que la foule le nourrit, ça peut être très, très, très dangereux.
100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. C'est un homme des grandes occasions. Chapeau. Oui. Maintenant, Félix est en action au moment où on enregistre, on l'a dit un peu plus tôt. Mais supposons qu'il passe le premier tour, à quoi on doit s'attendre de Félix pour ce tournoi-là? Hugues, je te vois sourire.
John McEnroe a dit tout le bien qu'il pensait de Félix ce week-end dans les commentaires d'avant-tournoi. Il dit que c'est une question de temps avant qu'il gagne un grand chelem. On le pense tous. Je pense que McEnroe le voit très loin cette année, mais bon, là, en temps difficile, au moment où on enregistre, il est dans le tie-break du quatrième set. Son adversaire est à 2 points du match. Donc, encore une fois, je l'ai dit plus tôt, c'est un peu la boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Écoute, je le voyais assez loin, hein. Je le voyais assurément en deuxième semaine. J'ai bien aimé ce que j'ai vu à Cincinnati. Mais encore une fois, il semble avoir une journée un peu off aujourd'hui. Je ne sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Là, suite à ce que je vois en ce moment, ce qu'il va réussir à prendre du galon si jamais il traverse son match de premier tour, mais c'est pas garanti.
C'est dommage parce que, si on regarde un peu plus loin dans le cas de Félix, le Donskoy, ça devait même pas être une question au premier tour. Et il avait un tableau prenable jusqu'au quatrième tour, une ronde des 16, où là, il affronterait potentiellement Rublev. Là, il pourrait affronter Agut ou peut-être Kyrgios au troisième tour, là, dépendant des résultats. Mais
balle de match pour Félix. Balle de match.
Contre Félix?
Non, il vient de remonter dans le tie-break. Donc, 6-5, balle de match au quatrième set pour tie-break contre Donskoy. Donc, s'il break, il gagne le match.
On va avoir le résultat en direct, en différé pour les gens qui nous écoutent à la radio. Mais il a un tableau ouvert, en tout cas, définitivement prenable jusqu'au quatrième tour. Là, il y a des joueurs qui ont des tableaux pas mal plus compliqués que ça. Évidemment, au quatrième tour, ce serait potentiellement Rublev. Et là, ça pourrait être compliqué. Et en quart de finale, ce serait possiblement Tsitsipas. Et après ça, peut-être un Medvedev et Djokovic
qui se rendent. Mais les gars, je dois quand même souligner là, un match de 4 heures au premier tour, pénible, contre un joueur qualifié. Ça ne fonctionne pas pour un 12e mondial, pour un 12e favori, pardon, il est 15e mondial, 12e favori. Pourquoi? Il y a toujours des premiers tours difficiles en Grand Chelem, on le sait, il n'y a pas de match facile, mais c'est compliqué pour Félix. On n'a pas trouvé encore la constance et la méthode au niveau tactique pour avoir des matchs un peu moins compliqués semaine après semaine.
Donc, c'est pénible. En même temps, on a vu ça plein de fois, tu sais, des champions de Grand Chelem peinés dans des premiers tours, faire des 4-5-7 et voir un Federer remporter Wimbledon par la suite. On l'a vu, là. Je veux dire, je le dis souvent, c'est compliqué de remporter sur le circuit de l'ATP et de la WTA. Les classements sont beaucoup plus près que ce qu'on pourrait envisager. Les choses sont ouvertes. Toi, Nico, tu t'attends à quoi de Félix?
Si tu m'avais posé la question il y a quelques heures, je t'aurais dit, je suis confiant. Je suis encouragé. Félix va bien. Félix est en forme. Nouvelle campagne avec Adidas. Tout va pour le mieux. Et là, ce matin arrive ce qui est arrivé. C'est-à-dire, oui, peut-être une victoire. Là, attendons de voir. Mais Hugues l'a dit, bon Dieu, que c'était triste de voir Félix ce matin. C'était supposé être une victoire 6-2, 6-2, 6-1. Classé, fini, colle bâton, on s'en va au deuxième tour. Malheureusement pour Félix, chaque match est un défi. Chaque match est compliqué de plus en plus. Tu l'as dit, oui, parfois il y a des Federer qui ont arraché au premier tour. Mais pour Félix, c'est devenu une norme d'avoir aucun match gagné d'avance. Dans les tournois Grand Chelem, habituellement, les deux premiers matchs pour les têtes de série se sont supposés être pratiquement des réchauffements. Désolé pour les joueurs qualifiés, mais c'est ça quand même. Les deux premiers matchs sont supposés être faciles pour les têtes de série. Et pour Félix, ce n'est jamais facile. S'il est revenu, tant mieux. Mais c'est un match qu'il aurait dû remporter avec beaucoup plus d'aisance. Et c'est pénible de voir Félix aller. Parce que oui, il a connu de très bons moments, notamment au premier set. Là, il a servi, comme rarement je l'ai vu servir, des as. C'était hallucinant. Hallucinant. Malheureusement, il n'y a jamais rien de facile avec Félix, puis il nous habitue, et c'est ce qui me fait peur.
Là, les gars, je vous trouve sévère. En tout cas, je sais pas si c'est moi qui a trop les... Comment dire... je regarde avec les lunettes roses, là, Félix, mais je veux dire, c'est pas si... s'il fallait qu'il remporte en 4-7, c'est pas si pire que ça, là.
C'est la manière. C'est la manière. C'est ça que. Mais oui, le résultat, bon, peut-être, là, ça se peut un 4-7. Là. On n'attendait pas qu'il ne perde aucun set dans ce tournoi-là. Mais c'est la manière. Tie break au premier set, qu'il aurait dû remporter à maintes reprises. Là, il y a eu plusieurs chances de mettre fin à ce set-là. Ensuite, perd le deuxième de manière peu convaincante, ne s'est pratiquement pas battu. Il y a espèce de body language, un non-langage qui me faisait peur au deuxième set, au troisième set aussi. Il n'avait pas l'air dans son assiette, il n'avait pas l'air confiant. Oui, bon, peut-être s'il remporte le match, je l'ai dit Alex, on est peut-être sévère, là, mais c'est de l'accumulation. Je pense que cette sévérité vient de l'accumulation du fait que Félix, trop souvent, répond pas aux attentes. C'est tout simplement ça. Oui, c'est parce qu'en fait, on juge Félix par son classement. Et actuellement, il n'est pas l'homme de la 15e position mondiale. Et c'est le constat que j'en fais. Plus le temps avance, plus les semaines avancent. Est-ce que Félix est mal classé? Dur à dire. Présentement, il ne répond pas aux attentes d'un 15e mondial. Puis c'est pour ça que je pense qu'on est sévère. Puis je pense que Félix mérite cette sévérité-là. Parce que tu ne te rends pas 15e mondial par hasard. Là. C'est tout un joueur de tennis, Félix Auger-Aliassime. C'est le 15e meilleur joueur au monde.
C'est pas justement banal. Ça. Il faut qu'il les gagne, ces points-là, pour être 15e mondial. Je veux dire,
Il faut qu'il les gagne, mais chaque grand joueur doit gagner les matchs les plus faciles, les plus importants. Oui, Félix, il a le potentiel d'être un 5e mondial, un top 10 mondial, mais il faut qu'il s'y rende. C'est beau de le dire qu'il a le potentiel, mais il faut qu'il mette ce potentiel-là à l'œuvre. Et présentement, il est comme bloqué à la 15e position, puis c'est décevant compte tenu des attentes et du talent dont il dispose.
Ben, en tout cas, il ne sera pas bloqué au premier tour parce que c'est réglé. Il a passé le premier tour, messieurs. Alors, on peut mettre ce match-là derrière nous et continuer. C'est une bonne nouvelle pour la temporalité de notre émission. Oui. parce qu'on venait de faire 5 minutes sur des prédictions jusqu'en quart de finale. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'il a gagné pour ça. Et bon, vous vous attendez à quoi dans le cas de Félix? Tu le vois aller jusque où, toi, Nico?
Félix, ben là, est-ce que mes prédictions seraient les mêmes compte tenu de la performance de ce matin? Je sais pas. Je l'ai mis jusqu'au 4e tour défaite contre Rublev. Donc, j'ai fait en sorte qu'il passe Feliciano Lopez. J'ai dit qu'il allait aussi remporter contre Nick Kyrgios, qui ne sera pas un mandat facile. Et malheureusement, il devra s'incliner contre Rublev, qui sera tout simplement trop fort. Mais vu la façon dont il a joué ce matin, un rendez-vous contre Kyrgios peut être dangereux.
Ah ben, ça sera. Ouais, moi aussi, j'avais ça. Et là, si je ne me trompe pas, je pense que Feliciano Lopez a perdu au premier tour. Alors, ce serait contre Zapata Miralles, qui devrait être prenable aussi pour Félix. Moi, j'ai la même chose que vous. Je l'ai défaite contre Rublev potentiellement au 4e tour. Et demi-finale, messieurs, je commence avec toi, Hugues, tu as quoi comme prédiction demi-finale?
Je suis extrêmement prévisible. J'ai suivi encore une fois les têtes de série. Donc, je vois en haut du tableau Djokovic contre Zverev et en bas du tableau Medvedev contre Tsitsipas. Une finale Medvedev-Djokovic qui va être un régal. Donc, c'est ce que je prévois.
J'ai exactement les mêmes demi-finales que toi. J'ai Djokovic-Zverev et Tsitsipas-Medvedev. Nico, à quoi ça ressemble?
J'ai 3 sur 4. En fait, moi, j'ai dit que Roublev allait battre Tsitsipas. Pour quelle raison?
C'est possible.
Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va faire la différence, mais Roublev, j'aime beaucoup son jeu. Je pense qu'il a encore beaucoup de tennis dans le corps. Il a beaucoup de choses à prouver encore, je pense, contre un Tsitsipas assez prenable. Maintenant, ben, tu sais, un ou l'autre, je veux dire, on aurait droit à tout un duel de tennis. Là. Mais j'ai mis l'avantage à Roublev.
Et tu as une finale tu vois qui comme gagnant? Ben,
encore une fois, je ne serai pas très original, mais j'ai une finale Medvedev-Djokovic. Encore une fois, 1 et 2, mais ce sont les deux meilleurs joueurs de la planète. Ouais. C'est un peu dommage là, pour faire du millage en termes de minutes pour le podcast. C'est assez court, mais ce sont tout simplement les deux joueurs les plus durs à battre. Ils s'affronteront en finale dans une finale névralgique.
Pas trop besoin de faire de millage, Nico. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes et puis on a encore d'autres sujets. Hugues, tu as qui comme finale?
Je mets la finale Djokovic-Medvedev. Comme je disais, je m'attends à une finale d'anthologie, mais je pense que Djokovic va se faire surprendre par Medvedev en finale.
Aïe.
Ouais. Je pense que tout est sur la ligne pour ce grand chelem calendrier, le premier de l'ère open pour un homme. Mais je pense que Medvedev va surprendre Djokovic en finale. Vous savez, encore une fois, à quel point je suis fan de Medvedev. Donc, je garde mes billes et mes pattes d'ours sur mon homme de la saison. Donc, Daniil Medvedev est prêt à se rapprocher encore plus du premier rang mondial avec une victoire surprise contre Djokovic en finale du US Open. C'est ma prédiction.
As-tu vu, Nico, comment l'expert marketing a plugué le nom du podcast subtilement?
Ça, c'est fin, ça, c'est l'expérience.
Exact. Le gars, c'est ce qu'il fait. Tu sais. Messieurs, moi, je vais vous surprendre parce que j'ai fait gagner Zverev contre Djokovic. Ouais, t'allais dire?
Non, mais j'y ai vraiment pensé parce que rappelle-toi, la semaine dernière, on se disait, est-ce que Zverev est l'homme à battre au US Open? Et c'est pas tout à fait illogique comme réflexion.
Mm-hmm. Ben, il est le joueur le plus en feu du circuit. Et maintenant, Djokovic va se pointer dans quel état? Il a presque pas joué. Il a pas joué depuis les Jeux Olympiques. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner en cas de Djoko. Mais moi, je pense que Zverev est l'homme à battre. Et en finale, bon, ben, j'ai Medvedev, moi, en finale, et j'ai Medvedev champion. Parce que je pense qu'il est le deuxième joueur qui a le plus de succès présentement en arrière de Zverev, mais je pense que Medvedev va remporter ce US Open-là. Enfin, ce sera ma prédiction, mais on parlait que c'était un tournoi de la nouvelle ère, ben avec une finale Medvedev-Zverev, je pense que je suis simplement cohérent avec tout ça. Messieurs, un dossier qui fait beaucoup jaser au US Open présentement, c'est tout le dossier de la vaccination. Semble-t-il qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas vaccinés. On a aussi également annoncé que pour assister, les partisans devaient montrer une preuve de vaccination. Et ça aussi, c'est un dossier. Ça fait jaser beaucoup au Canada, ça fait jaser pas mal plus aux États-Unis. Nico, tu peux faire un portrait peut-être rapide de la situation?
Bien, assurément, plusieurs nouvelles concernant tout ce qui concerne la pandémie. Donc, tu l'as dit, le stade pourrait être rempli à 100% de capacité. Par contre, il faudra une preuve de vaccination. Remboursement possible pour les gens qui ne se sont pas fait vacciner et qui avaient au préalable acheté des billets avant l'annonce officielle du tournoi. Et il y a un article intéressant qui est paru ce matin dans le New York Times, signé par notre ami Ben Roderberg, dont tu parlais en début d'émission, Alex, qui met en lumière le fait que les joueurs de tennis sont en retard en comparaison du reste de la planète sportive. Seulement 50% des joueurs de l'ATP et de la WTA sont vaccinés. Lorsqu'on regarde, par exemple, des ligues comme la Ligue nationale de hockey, la NFL, la MLB, où les taux apprivoisent entre 80 et 100, c'est difficile de comprendre pourquoi. Par exemple, Gilles Simon, dans l'article, expliquait que selon lui, c'est un choix et qu'il est même prêt à ne pas participer à certains tournois pour ne pas être obligé de se faire vacciner. Tandis qu'il y en a d'autres, comme Sophia Kenin, notamment, qui a été vaccinée mais qui a quand même contracté le virus. D'autres comme Ashley Barty, que j'ai trouvé superbe dans cet entretien, qui a dit « C'est juste logique. On veut jouer. Le seul moyen d'y parvenir, c'est quoi? C'est de se faire vacciner. » Alors pour moi, c'est illogique de ne pas se faire vacciner. Ensuite, ça implique beaucoup d'autres questions. Par exemple, plus les joueurs résistent à la vaccination, ben plus il y a de mesures. Et plus il y a de mesures, plus c'est difficile de jouer des tournois de manière normale. Alors, c'est comme une espèce de cercle vicieux que les joueurs ne semblent pas comprendre. Et dans une optique où ces joueurs-là, contrairement à des joueurs de la LNH, de la MLB ou de la NFL, voyagent chaque semaine transatlantique, c'est difficile de comprendre pourquoi ils refusent de se faire vacciner. Ouais. D'autant plus que c'est un sport, contrairement, par exemple, au sport équestre, où la majorité des joueurs sont dans la vingtaine, dans la trentaine, donc normalement devraient comprendre l'importance de se faire vacciner et être dans ce mouvement-là pro-vaccin. Alors, c'est plein d'enjeux. Ben Roethlisberger qui met la lumière là-dessus et c'est vachement intéressant.
Oui. Nico, tu as bien fait le tour de la situation. Je rebondis là-dessus. Moi aussi, je suis vraiment étonné que l'ATP, WTA ne soit pas plus rigoureuse sur la vaccination pour faciliter justement l'accès aux joueurs, la question des bulles et tout ça. Et c'est une des seules grandes organisations qui est limitée à des taux autour de 50 % de vaccination, comme tu l'as dit. C'est vraiment étonnant. La plupart des grandes ligues sont entre 95 et 100 % déjà. La question, c'est pourquoi? On le sait que c'est un sport international. Le tennis, il y a beaucoup de voyagements. Donc, ça vient compliquer les déplacements pour tout le monde et les possibilités de jouer. Et quand tu vois une histoire comme celle de Gilles Simon, c'est la preuve qu'il y en aura sûrement d'autres durant l'US Open. Donc, c'est un peu étonnant là que les organisations WTA et ATP n'a pas été plus exigeante envers leurs joueurs. D'autant que les foules seront à 100% au US Open cette année, qu'elles devront tous présenter donc la preuve de vaccination complète. Il y a une dichotomie entre ce qui se passe dans la foule et sur le terrain qui fait pas de sens. Et tu as une proximité entre les joueurs. N'oubliez pas, les terrains au US Open, quand tu es sur le terrain 5 ou 10 ou 17, t'es très près des joueurs, donc il va avoir des contacts où il peut avoir un transfert de bactéries, de particules. Donc, c'est quand même étonnant. Moi, je suis extrêmement surpris là de cette position relaxe de l'ATP WTA. Effectivement, certains joueurs ont fait des sorties qui sont pleines de sens pour moi, dont Andy Murray du côté masculin et Ashleigh Barty, comme tu le dis, du côté féminin, en faveur des vaccins.
Et à votre avis, et Hugues, je pense que tu pourras plus me répondre là-dessus, est-ce qu'il y a une différence entre des ligues et des associations dans la manière d'obliger? Parce que, par exemple, un autre sport qui en arrache, c'est le golf avec la PGA, qui est aussi une association, qui n'est pas une ligue. Donc, est-ce qu'il y a une différence dans ce qu'on peut imposer entre une ligue et une association?
Tout à fait.
C'est le principal problème.
C'est la base, exactement. Parce que chaque joueur est sa PME, en fait. Donc, ils sont représentés par l'ATP, WTA, mais c'est pas leur boss. C'est pas comme la NHL ou la MLS ou la MLB où ils travaillent pour une ligue. Donc, ils doivent répondre aux exigences de la ligue. Là, c'est une PME et en tant que PME, comme travailleur autonome, ils ont le droit de décider de ce qu'ils font. Mais je pense qu'il aurait dû avoir un alignement quand même avec les deux associations WTA, ATP, là, en vue du dernier grand chelem de la saison. Il va y avoir des problèmes, c'est certain.
Moi, je vais prendre position, puis bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous me lancerez des tomates, là, mais je ne comprends pas la position du choix personnel. Je ne comprends pas cette position-là, parce que si c'était un choix personnel, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas l'alcool au volant dans ce cas-là?
Exact.
Je veux dire, tant qu'à ça, ben c'est à toi de prendre le volant un peu pacté puis d'être un danger public. Pour moi, ça, en tout cas, je suis pas un spécialiste du dossier là, mais je ne comprends pas cette option-là de choix personnel. Je comprends les craintes que certaines personnes peuvent avoir parce que, bon, officiellement, les dommages à long terme, on peut pas les connaître avant le long terme. Alors, je peux comprendre ces gens-là, mais en même temps, si tu fais pas confiance au système de santé publique, je veux dire, tu vas plus jamais à l'hôpital de ta vie.
C'est juste du savoir-vivre, en fait. Je veux dire, il y a pas de loi qui t'interdit de jeter ton souper dans la rue. Mais il n'y a juste personne qui le fait parce que si tout le monde jetait ses vidanges dans la rue, ce serait juste invivable. Donc, je suis du même avis que toi, Alex. Surtout dans une collectivité aussi petite que le tennis, parce que les joueurs s'affrontent toujours, se croisent tout le temps, sont dans les mêmes hôtels, prennent les mêmes avions. C'est difficile de comprendre, tu as raison, la théorie du choix personnel.
En tout cas, moi, je la comprends pas. Puis, je suis surpris aussi que le taux de vaccination soit si bas chez des gens qui... Je veux dire, c'est des gens qui font le tour du monde à chaque année, qui devraient avoir une connaissance beaucoup plus comment dire, vaste des problèmes internationaux. Je veux dire, ces gens-là voyagent partout dans le monde. Pas mal plus que toi puis moi, Nico. Là. En tout cas, ça me fascine. Et en tout cas, félicitations à Ben Roethlisberger. Honnêtement, il fait tellement tout un travail. Et puis, Il fait quelque chose que moi, comme journaliste, j'aurais de la misère à faire parce que, en fait, journaliste, je suis même plus journaliste. Je suis une cheerleader avec un micro, là, on va se le dire. Là, mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, je suis plus journaliste.
Une sexy cheerleader, par exemple.
Honnêtement, c'est pas gênant. Mais sauf en maillot de bain. En maillot de bain, c'est un peu plus gênant. Mais, ben voilà. En tout cas, c'est dit, messieurs, moi, la seule chose que puis on en parlait de façon privée, c'est que le changement de réglementation par rapport aux partisans qui doivent avoir une preuve de vaccination, si tu as acheté tes billets il y a 3 semaines, là, je peux comprendre que peut-être que tu ne les aurais pas achetés. Aux dernières nouvelles, j'ai pas vu dans le communiqué, en tout cas, ça disait pas que les gens pouvaient se faire rembourser si jamais...
Oui, t'as vérifié.
Bon, ben ça c'est une bonne nouvelle dans le contexte pour eux, parce que je pourrais comprendre que certains disent « Ouais, ben là, moi, j'ai acheté mes billets dans les conditions, mais là, tu changes les paramètres de ces conditions-là. » Alors, je pourrais comprendre que ça pourrait créer une certaine controverse. Mais s'ils se font rembourser, bon, dans ce cas-là, je pense que je suis pour tout ça. Avant qu'on se laisse, messieurs, je veux qu'on revienne sur Federer, parce que cette semaine, bon, encore, on voyait le classement de Forbes, et puis je pense qu'il est le septième athlète le plus payé de l'année, alors qu'il a presque pas joué de l'année. Hugues, comment ça se fait qu'il est encore... qu'il fait encore autant d'argent en dépit du fait qu'il ne joue pas.
Ce qui est intéressant dans le cas de Federer, c'est que ça a été long, en fait, avant que ses revenus soient au niveau de sa performance et de sa légende grandissante. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Je dirais que c'est dans les dernières années que vraiment il a capitalisé au maximum sur son statut et toute la marque Roger Federer, ce qui vient avec évidemment. Et ce qui a fait la grosse différence, c'est sa signature avec Uniqlo en 2018. Nike a été très longtemps chiche avec lui, il faut le dire. Ils ont négocié très serré, même à la fin des années 2000, quand il devenait numéro un mondial, il était encore sur des contrats à 500-600 000 par année. Là. C'est pas beaucoup. Là. Donc, le dernier contrat qu'il y a eu avec Nike était à 10 millions par année. Mais si on compare, et c'est un contrat qui s'est terminé en 2018. Mais donc ces 5 dernières années, il faisait 10 millions par année. Mais son contrat de Uniqlo est de 300 millions sur 10 ans, donc 30 millions par année. Donc imaginez la différence entre son contrat avec Uniqlo et avec celui avec Nike. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a signé juste il y a 3 ans. Et on sait que ses meilleures années sont derrière maintenant. Donc là, Uniqlo a Roger Federer comme ambassadeur, mais c'est l'homme autant que le tennisman qui va être avec eux pendant encore 7 ans. Et sûrement qu'il y a une grande période là-dedans où il sera plus sur les terrains de tennis. Je le souhaite pas, mais je crois que c'est ce qui va arriver en toute logique. Donc il a accumulé une valeur au niveau de son patrimoine et de sa marque qui serait autour de 1 milliard aujourd'hui. Et c'est des commandites avec Rolex, avec les chocolats Lindt notamment, avec Mercedes-Benz, avec les pâtes Barilla. Mais tout ça, il a vraiment capitalisé dans les 5 dernières années. Ça a pris beaucoup de temps, mais là, en ce moment, il le vaut. Et son statut de 7e athlète le mieux payé au monde est pleinement mérité dans la catégorie des Lionel Messi, Ronaldo et autres, Conor McGregor.
Mais là, on s'entend que, bon, à moins d'une grande surprise... Même s'il a encore un contrat de 7 ans, ce gars-là va être signé à vie, probablement comme un LeBron James, etc., éventuellement. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances qu'il revienne avec Nike après ce contrat-là?
Je ne croirais pas. N'oubliez pas qu'il a récupéré sa marque RF. Donc, Roger Federer, les fameuses initiales RF qui étaient mises en marché par Nike à cette époque-là. Moi, j'ai pas l'impression que ça s'enligne pour ça. Là, il y a son contrat avec Uniqlo qui va s'étirer encore jusqu'en 2028. Il a sa propre marque RF. Je pense que le nom Roger Federer, la marque athlète Federer, il peut faire tout seul maintenant. Il n'y a plus besoin de Nike. Il a fait ce qu'il avait à faire avec Nike, et ça a été génial. Il y a eu des très, très belles années avec eux. Très belle association pour les deux parties. Mais je pense que Roger Federer est sa propre marque maintenant et pour le futur, et que son dernier gros contrat, ça aurait été celui avec Uniqlo qui va se terminer en 2028.
Bien, je pense qu'il faut se rappeler, les gars, que, tu sais, Alex, rappelle-toi à l'époque comment j'avais été outré par le fait que Federer change de marque à Uniqlo. Puis, tu sais, j'ai comme un doctorat en Roger Federer. Puis, il faut le dire, là, les demandes de Federer étaient claires. Il voulait un contrat à vie chez Nike, comme LeBron James et Cristiano Ronaldo, et on lui a dit non. Ce qui est tout à fait illogique, parce que Federer est dans la même classe, et même peut-être, en ce cas c'est personnel, mais dans une classe supérieure à Ronaldo et à LeBron James. Ça m'étonnerait, tu sais, pour répondre un peu à la question, c'est évidemment Hugues l'expert, mais je pense pas qu'il revienne après ce coup de poignard de Nike.
Convaincu. Convaincu qu'il ne viendra pas, mon gars.
C'est tellement illogique, puis je pense qu'ils en ont tellement fait baver à Federer que par orgueil personnel, je vois pas pourquoi Federer retournerait chez Nike. Puis je pense pas non plus que Nike le veuille tant que ça après sa carrière. Il n'a plus rien à prouver, ne gagnera plus de titres. Je pense qu'il est avec Uniqlo pour y rester.
Non, sauf que tu as raison, sauf que tu te prives de toutes les images potentiellement utilisables à Wimbledon, tous ces titres avec Nike, tu ne peux plus les utiliser dans tes promos. Alors, c'est pour ça que moi, je me disais peut-être que Nike va faire un retour aux sources et aller donner une espèce de contrat à vie. Parce que, bon, si lui ne part pas sa propre marque comme d'autres l'ont fait, là, Venus notamment, Camilla Giorgi, même chose, là, est-ce que lui va faire sa propre marque de vêtements de sport? C'est possible aussi. Mais si j'étais Nike, en tout cas, je le considérerais. Mais peut-être que lui voudra rien savoir. Et chronique économie, Hugues Medvedev qui signe avec Lacoste, gros coup de Lacoste.
Ben, c'est un prolongement jusqu'en 2025, mais le gros coup, c'est qu'ils ont le verrou maintenant sur le numéro 1 et numéro 2 mondial avec Lacoste. Donc, je pense que leurs choix ont été extrêmement visés. Deux joueurs qui ont une portée internationale. Je pense que Lacoste a fait un très bon coup. Là où Djokovic joue avec ASICS, j'allais dire Tiger ASICS, ça révèle mon âge encore, c'est bien ASICS. Medvedev a les chaussures Lacoste aussi, donc il est de la tête aux pieds avec Lacoste. Ils veulent en faire un ambassadeur pour plusieurs années encore. Donc moi, je pense que c'est un très beau coup de Lacoste qui tire son épingle du jeu dans la marée de Nike et de Adidas. Et on sait qu'Adidas a vraiment mis le grappin sur la Next Gen avec Zverev, avec Tsitsipas notamment, et avec Félix plus récemment dans la dernière année. Donc Adidas est très très bien positionné. Mais Lacoste, au niveau stratégique, ont bien joué leur bille pour aller récupérer le numéro 1 et maintenant le numéro 2 mondial.
Et les gars, rappelez-vous, s'il y a quelques semaines, on parlait de cette espèce d'équité dans les marques de raquettes, les commanditaires de raquettes entre Ed, entre Babola et Nike. Et j'ai fait l'exercice de regarder les joueurs du top 10 avec qui les habillait, qui était leur commanditaire. Et en fait, là, pendant que je retrouve mes notes, là, le résultat est assez intéressant. En fait, il y a parmi le top 10, il y en a 3 qui sont avec Adidas, 3 avec Nike, 2 Lacoste, 1 Lotto, Berrettini et 1 Uniqlo, qui est Federer. Donc encore là, il y a une espèce de parité quand même qui demeure. Et je ne sais pas, Hugues, pour toi, le gun marketing, si c'est intéressant ou si au contraire, ça t'étonne un peu?
Non, pas du tout. C'est parce que en marketing, tu veux dominer, donc tu dois faire des choix. Donc, ces marques-là, comme Lotto, comme Uniqlo, qui sont un peu inattendues, ou même Lacoste à ce niveau-là, ils ont décidé de mettre le paquet sur ces joueurs-là du top 10. Tandis que si tu descends en bas du top 10, à 95%, ça va être Adidas ou Nike. Ouais. Donc, c'est pour ça que dans le top 10, il y a un équilibre qui est un peu moins révélateur de ce qui se passe sur la profondeur du classement, où ça va être Adidas et Nike qui vont être partout, évidemment. Donc, c'est vraiment ces compagnies-là qui ont fait des choix où ils ont mis tous leurs dollars marketing de commandite sur ces joueurs-là, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans le top 10 avec des joueurs à très forte visibilité mondiale.
Est-ce que tu penses, Hugues, que les compensations financières de Lacoste sont très comparables à ceux de Nike et Adidas pour des joueurs comme Medvedev et Djokovic? Je veux dire, est-ce que tu penses que c'est…
Ils n'ont pas le choix.
Ils ont outbidé Nike et Adidas, en fond, c'est ça ma question.
C'est certain. Il y a des négociations là. Djokovic, Medvedev ont négocié avec Lacoste. Comme je vous dis, les chaussures du côté de Djokovic, c'est pas avec Lacoste, c'est ASICS. Mais ils doivent être comparables à Nike et Adidas. Et ils mettent le paquet évidemment à ce niveau-là. Il y a peut-être des bonus de performance plus alléchants parce qu'on est dans le très très haut niveau. Donc peut-être que la portion variable va être plus intéressante pour Djokovic et pour Medvedev que pour les joueurs qui sont avec Nike ou Adidas. Mais oui, la réponse claire, c'est que tu dois être comparable au niveau de ton offre, sinon les joueurs vont aller ailleurs.
Est-ce que c'est important pour une compagnie comme Lacoste d'avoir des joueurs français ou c'est plus important d'avoir des joueurs de haut niveau comme Medvedev et Djokovic?
C'est intéressant. Ça a évolué, ça aussi. Avant, tu avais beaucoup de Français, évidemment. On connaît la marque au crocodile, emblème de René Lacoste, mousquetaire français du début du 20e siècle. Mais là, Nike, c'est-à-dire Lacoste, comme le Paris Saint-Germain en passant dans sa signature avec Air Jordan et avec plus récemment Lionel Messi, veut rayonner comme une marque globale. Donc, ils veulent une portée au niveau international. Lacoste n'est plus qu'une marque française. Ils veulent être puissants, ils veulent avoir une notoriété forte, une appréciation très forte, un fit très fort avec les fans au niveau du tennis, mais dans la logique d'une marque globale. Donc, non, Lacoste n'est plus qu'une histoire française. Oui, ses racines sont françaises, les bases de Lacoste, le style de Lacoste sont encore très, très français, mais c'est une marque globale. Ne nous y trompons pas.
Parce que je regardais les joueurs commandités par Lacoste et je ne sais pas si j'ai la liste à jour sous les yeux, là, mais ça semble assez à jour. Le plus gros nom français, c'est possiblement Nicolas Mahut, qui n'est pas un si grand nom que ça. Tu as Benoît Paire, mais je ne sais pas s'il est encore commandité officiellement.
C'est terminé.
Mais sinon, ce serait possiblement Nicolas Mahut ou Jérémy Chardy qui sont pas des grands noms du tennis français en ce moment. Ce sont des joueurs très... Mm. En fait, Nicolas Mahut, c'est peut-être le joueur le plus high profile qu'ils ont là, de par ses résultats en double et par de son match historique contre John Isner à Wimbledon. Mais autrement, c'est pas un gars qui a dominé le circuit, en tout cas du côté du simple. Mais bon, c'est intéressant tout ça. Messieurs, je vous remercie infiniment pour ce nouvel épisode de Sur la ligne. Je rappelle qu'on est diffusé au 91.9 Sport. L'émission a été enregistrée, notamment en direct de l'Hôtel Montville aujourd'hui, qui est un partenaire. On l'en remercie. On est disponible sur toutes les plateformes de balado, incluant notamment Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. On est sur le site de Tennis Canada de l'Omnium Banque Nationale. On est le podcast, l'émission de radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. Hugues, je te demande pas qu'est-ce qu'on a à surveiller, c'est assez évident cette semaine. On surveille le US Open. Alors Nico, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.